Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Tech & Co, la quotidienne, les invités.
Vincent Farré d'Astiès nous a rejoint. Bonsoir Vincent.
Bonsoir François.
PDG fondateur de Zefalto, et Arnaud Longobardi est avec nous. Bonsoir, bonsoir Arnaud. Vous êtes pilote de ligne et vous êtes aussi fondateur de Stratoflight.
Tout à fait.
Merci d'être avec nous tous les deux. Je disais tout à l'heure avec Jean-Baptiste, voilà, on va maintenant rentrer dans le concret avec deux startups qui, explore un petit peu l'espace à votre manière. Alors Stratoflight, vous vous êtes associé avec Expluo pour construire une capsule capable d'envoyer 6 personnes aux limites de l'espace, c'est ça Arnaud ?
Oui c'est ça, c'est un projet qui monte à environ 35 000 mètres avec 4 passagers et 2 pilotes. Ce projet est assez connexe à l'aviation et au spatial puisque c'est une navette équipée un peu comme un avion mais sans moteur. Et donc on met 2 pilotes pour un peu avoir une garantie de sécurité équivalente à ce qu'on a dans l'aviation.
Et comme vous êtes pilote, ça sera vous le premier qui emmènera tout ça dans les airs.
C'est ça, c'est moi qui fais les tests. Et on a déjà une banque de pilotes. Enfin, on a 4 pilotes, j'ai recruté 3 pilotes pour faire cet équipage, ce premier équipage.
Et tous les deux, si je ne m'abuse, vous remettez au goût du jour une invention vieille comme le monde, en tout cas la montgolfière, enfin en tout cas le principe pour monter comme ça une capsule, c'est le système que vous utilisez ?
Oui, c'est ça, c'est un ballon identique en ce qui concerne mon projet, en tout cas Stratoflight, à celui qu'utilise le CNES en tout point, mais avec une capacité d'emmener une charge importante.
Quel poids, enfin quelle masse d'ailleurs vous pouvez...
Une tonne 8 à 2 tonnes.
Alors expliquez-nous, donc le ballon décolle, vous avez votre vaisseau qui est accroché, c'est ça, votre avion ? Ça ressemble à quoi, un avion ?
Ça ressemble à une navette spatiale, un avion, c'est un hybride entre les deux.
Ok. 35 km d'altitude, le ballon décroche.
35 km d'altitude, les passagers vivent une expérience unique, c'est-à-dire une sortie type extravéhiculaire sur le balcon, sous gravité évidemment, on n'est pas dans l'ISS, équipé d'un scaphandre, comme on peut voir.
Enfin, quand vous dites un balcon, c'est un vrai balcon ?
C'est un vrai balcon, avec une porte qui s'ouvre, et à l'arrière, un balcon. Avec une ligne de vie, évidemment, pour sécuriser les passagers. Donc les passagers sortent, apprécie la vue.
Et avec une combinaison, parce qu'évidemment, il fait froid, il n'y a plus d'oxygène.
Évidemment, oui. On a besoin de suppléer aux besoins physiologiques des passagers.
Et ça sert à quoi d'être dehors, en fait ? On ressent mieux l'espace que d'être derrière, une grande vitre ?
Oui, c'est très différent. Ça, c'est sûr que c'est différent. C'est comme si vous prenez un avion et vous êtes dans la carlingue et une montgolfière, vous êtes dehors. C'est pas du tout la même expérience. C'est l'expérience unique de Stratoflight, c'est qu'on offre aux passagers plusieurs choses, mais dont celle-ci, qui est la sortie extravéhiculaire extérieure pour contempler l'environnement, mais aussi pour mettre des capteurs, des études scientifiques sur ce balcon. C'est pas qu'un véhicule destiné à des passagers.
D'accord. Et donc après, au bout d'un moment, on redescend ?
On redescend, on dégonfle le ballon, on redescend à une altitude de l'ordre de 8000 mètres. Et là, la navette se libère du ballon et on va ouvrir une voile et on va rentrer sur Terre par un pilotage précis, type avion de ligne, mais sans moteur, et en se dirigeant et en choisissant un terrain d'atterrissage.
D'accord. Qui sera le même lieu que le terrain de décollage ?
Pas forcément. Il y a une base de données, une banque de données importante de terrains accessibles qui seront différents, ça dépend des vents. La difficulté des projets uniquement ballons, c'est l'ascension, mais c'est aussi le retour sur Terre. On se pose un peu n'importe où, dans la forêt, enfin dans ce qu'on peut. Moi, j'ai pas voulu ça pour Stratoflight, par mes origines de pilote de ligne et de pilote d'essai de mini-voile de parapente. J'ai souhaité qu'on se repose à un endroit précis, sur un terrain possible, accessible, il y en a beaucoup. Potentiellement.
Mais ça ne peut pas être une piste d'atterrissage d'un aéroport.
Tout à fait, ça peut être une piste d'atterrissage. Après, la cohabitation entre un avion et une navette, c'est pas ce qu'on souhaite. On préfère avoir des terrains dédiés pour Stratoflight. C'est des petits terrains, hein. C'est 300 mètres de long sur 50 mètres de large.
Ah oui, d'accord. Donc c'est pas, vous n'avez pas besoin d'autant de place que pour un avion de ligne, quoi, pour atterrir.
Oui, ça il me faut beaucoup plus avec mon Airbus pour me poser qu'avec ma navette.
Ok, vous pilotez quel type d'Airbus ?
Un Airbus 320 moyen courrier.
Oui, c'est déjà pas mal. Développement donc d'une version à l'échelle qui est en cours. Vous en êtes où en fait dans le projet de
Stratoflight ? Eh bien là, on en est à la construction de la navette. Elle est actuellement en construction, elle sera finie dans 3 mois. Et ensuite, je dois intégrer tous les systèmes, la voile, l'instrumentation de bord, une somme de choses importantes pour prétendre à faire un premier vol de démonstration.
Vous pilotez des avions, donc la question que je vais vous poser, vous la connaissez par cœur. L'Agence européenne de sécurité aérienne, la certification de ce type d'engin.
Oui. Le Graal.
Le Graal, parce que effectivement, obtenir la certification, c'est... dantesque.
Complètement.
Comment ça se passe? Vous en êtes où? C'est fait? Alors, c'est pas fait?
C'est en discussion, ouais. Évidemment. Il y a deux phases dans le projet. Il y a une phase expérimentale, qui est beaucoup allégée par la réglementation, évidemment. Et il y a une phase certification où, évidemment, l'ESA et l'EASA ont leur mot à dire. On a besoin d'eux, d'ailleurs, pour faire évoluer, d'une part, la réglementation et l'accès à la stratosphère avec ce type de véhicule.
Ça coûte combien?
Ça coûte.
Enfin, ça coûtera combien?
J'ai pas le prix exact. C'est pas que je veux pas le donner, mais ça dépend de mes négociations avec la combinaison spatiale d'astronautes qu'on est en train de discuter. Donc, ça coûterait aux environs de 250 000 euros. Mais pour une expérience multiple, il s'agit pas de monter dans le véhicule, être assis et redescendre. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire et que je veux proposer à mes passagers une expérience multiple.
Très bien, vous restez avec nous, bien sûr, Arnaud. Vincent Farré-Dastiès, donc Zéphalto. Alors, vous, capsule pressurisée.
Oui.
D'accord. Et avec un voyage, vous n'avez pas peur d'employer les mots luxueux, etc., pour voir la rotondité de la Terre, c'est ça? Et la nuit spatiale?
Alors oui, c'est une altitude à laquelle on va être plongé dans l'obscurité spatiale pour découvrir la Terre dans son halo bleuté. C'est vraiment une expérience de contemplation. On voit sur les images qu'on a des hublots qui sont extrêmement grands, qui font presque 3 mètres de large. Donc il y a vraiment une expérience, le temps se suspend, autant suspend ton vol, comme on dit.
25 km d'altitude.
Voilà, c'est l'altitude à partir de laquelle on est dans le noir de l'espace. Et donc on a un ballon au-dessus de nous qui nous élève lentement. Alors c'est... On travaille avec le CNES depuis 7 ans. On a un partenariat exclusif de transfert technologique avec eux. Et du coup, on se base sur tout leur savoir, héritier de leurs 60 ans de savoir-faire, plus ce qu'on développe, nous, c'est une enveloppe réutilisable. C'est-à-dire que nous, vraiment, on a à cœur d'avoir l'exploration spatiale ou stratosphérique. Et je tiens plus beaucoup à l'exploration qu'à d'autres termes qui font plus consommateurs. Moi, je pense qu'il y a vraiment des gens qui viennent avec nous et qui viennent contempler.
Oui, c'est culturel, quasiment.
Enfin, vous faites bien de le dire. On est en train de développer tout un projet culturel. Alors, vous savez, on est très ancré. La société Zéphalto est née dans l'Hérault. Mmh. Et déménagé à Toulouse. On est très ancré dans la région Occitanie qui nous a soutenus depuis le début. Et avec eux, on monte un projet qui est culturel, industriel, artistique même, parce que voilà, toutes les applications qui... Voilà, le ballon, c'est aussi quelque chose qui sollicite énormément les imaginaires et qui est extrêmement pédagogique, qui va parler à tous de 7 ans à 77 ans, mais c'est même 7 mois à 107 ans. Et on est ravis d'emmener tout ça avec nous. Il y a vraiment ce côté intérêt général, finalement, scientifique aussi également. On bosse avec le CNES depuis le début, donc forcément, c'est quelque chose qu'on a à cœur. Voilà, c'est toute cette expérience-là qu'on emmène avec nous.
La toile de votre ballon, est-ce qu'elle a des capacités scientifiques, technologiques particulières? Enfin, c'est une toile spéciale ou alors c'est une toile lambda qu'on pourrait utiliser pour aller voir les châteaux du Périgord ou en montgolfière?
Alors, si vous voyez les châteaux du Périgord, il faut juste que vous puissiez aller à moins 80 degrés.
Ouais. Mais c'est ça.
Et exposer. Non, c'est évidemment une toile, un film très très spécial, des matériaux qui vont résister donc en particulier aux basses températures, qui vont rester souples à ces très basses températures. Évidemment, parce que le ballon va se déployer énormément avec son ascension. Donc évidemment, c'est beaucoup de développement là-dessus. C'est vrai qu'on s'appuie sur l'héritage des 60 ans d'expérience du CNES, mais on développe également ces ballons qui sont réutilisables, donc plus robustes, qui vient amener d'une part un bilan carbone plus bas, ça nous tient vraiment à cœur, et ensuite diminuer des coûts, mais également qui va amener de la robustesse. Parce que vous parliez tout à l'heure de certification, eh ben, entre envoyer des télescopes sous un ballon, il y a un facteur de sécurité qui va être petit, mais quand on emmène des passagers, des voyageurs, là c'est plus du tout la même chose.
Maximale.
Et avoir un ballon qui est réutilisable, ça le rend aussi également beaucoup plus robuste et beaucoup plus sécurisant. Parce que jusqu'à l'atterrissage, où le ballon va se déplier doucement, et on choisit donc bien son terrain d'atterrissage, on n'a pas de limite d'endurance, pas de limite de temps de vol en ballon. Donc autant en montgolfière, on choisit déjà son terrain, mais on a une demi-heure chrono pour le choisir. Là, eh bien, s'il y a un terrain qui ne va pas, on peut attendre 2 heures. C'est pas... Donc voilà, on choisit vraiment le terrain sur lequel on atterrit.
C'est le point commun que vous avez tous les deux, non? Le ballon, finalement?
Oui, bien sûr. C'est le moyen d'ascension le plus green pour monter à haute altitude et en stratosphère.
Ça pollue, un ballon ?
Ça pollue pas, quasiment pas, très très peu.
Parce qu'en fait, c'est quoi ? C'est un gaz qui chauffe en fait une toile. C'est comme ça que ça fonctionne ?
Alors, on va parler de la montgolfière, le ballon à air chaud. Oui. Là, on va être un ballon à gaz.
À gaz, d'accord.
Donc, c'est un gaz qui est extrêmement plus léger que l'air. Ça va être de l'hélium ou de l'hydrogène. L'hélium, c'est un gaz rare, donc on a tendance à le garder pour les applications médicales.
D'accord.
L'hydrogène, l'avantage, c'est qu'on aussi, maintenant, on commence à faire de l'hydrogène vert.
Là, d'accord. Et donc là, c'est vrai que...
Et là, on devient avec un bilan carbone extrêmement bas. Alors, pour les spécialistes, en scope 1, on tombe à 27 kg par passager. Grosso modo, un Paris-Lille en voiture. Voilà. Donc, quelque chose de très, très modeste, eu égard à l'expérience.
Aujourd'hui, vous êtes à 25 km d'altitude et 35 pour là. Est-ce que vous pouvez monter encore plus haut ? Ce que j'allais vous dire,
c'est...
vous me promettez l'espace, mais c'est vrai que le vrai espace, comme on dit, démarre à 80-100 km. Là où on commence, alors on n'a plus d'atmosphère, on n'a plus rien. Effectivement, pour le ballon, c'est très compliqué.
C'est pas vraiment
l'espace, est-ce que vous avez la possibilité de monter un petit peu ou...
Non, on ne pourrait pas, pour des raisons de sécurité. On pourrait techniquement le faire, monter à 40 km, enfin, en ce qui concerne Stratoflight, puisque le ballon n'est pas réutilisable. Donc, mon ballon pèse 1,4 tonne avec une épaisseur de 15 microns. Certainement beaucoup plus fin que ce qu'utilise M. Farid Astier. Et on pourrait monter techniquement plus haut, mais après, pour des raisons de sécurité, on ne va pas le faire. De toute façon, entre 35 km et 40 km, il y a peu de différence. Une fois qu'on a passé 20 km, là, il y a une vraie différence. Donc, on n'est pas dans l'espace, évidemment, mais on est à la frontière de l'espace. En tout cas, on a un visuel qui se rapproche de ce qu'on pourrait voir dans l'espace.
Pour les scientifiques, c'est intéressant, hein. C'est la ligne de Kármán.
Oui, c'est la ligne de Kármán.
Qui délimite, en fait, l'espace, qui est à 100 km.
À 100 km,
hein, c'est ça.
Tout à fait.
Donc, c'est intéressant, on est loin encore.
Là, on est aux portes de l'espace. C'est vrai que ce qu'on voit sur les vues, on voit cette expérience, cette overview effect, comme en parlent les astronautes, cette expérience, cette bouffée de contemplation et d'émerveillement qu'on a, qui est extrêmement émouvante. Et après, aller plus haut, c'est vrai que c'est tout simple, il suffit d'avoir un ballon plus grand. Alors nous, on n'a pas de limite, on construit déjà nous-mêmes nos ballons, et on n'a pas de limite. On a déjà des structures qui feront 100 mètres de long pour les faire. On va développer une structure donc près de la région toulousaine, une usine encore un peu plus grande du côté de Muret, donc de 140 mètres de long, qui va nous permettre de faire des ballons de plus en plus grands. On peut aller aussi de plus en plus haut.
L'un comme l'autre, pardon, je vous ai coupé, mais l'un comme l'autre, vous mettez en avant quand même le service. Vous, alors effectivement, le fait de pouvoir aller sur une petite, un petit balcon pour pouvoir observer comme ça l'espace. Vous, des banquettes très confortables avec un petit coin toilette, enfin, tout ça très cosy, etc. Donc c'est de la proposition de valeur ajoutée. Dans vos business models, vous devez proposer absolument quelque chose en plus pour les clients. Le simple fait de monter dans le manège, si j'ose dire, et d'aller voir cet espace, ça ne suffit plus. Vos clients vous demandent et vous demanderont demain sans doute... toujours un petit quelque chose en plus. On parlait tout à l'heure de dîner très luxueux avec François. C'est des choses aussi qu'on pourrait imaginer à bord de vos ballons.
C'est un choix de proposition de prestation. Je pense que Stratoflight est très différent du projet Zefalto. Nous, en ce qui nous concerne, on ne propose pas une restauration gastronomique. C'est pas ce que j'ai voulu faire. Je préfère proposer une expérience pilote, une expérience astronaute, entre guillemets, et une expérience scientifique. Inclure le passager plus dans la mission en tant qu'acteur que d'être passif et pourquoi pas de déguster quelque chose à haute altitude, mais c'est pas ce qu'on veut chez Stratoflight.
Et dans l'avenir, enfin, un peu plus tard, pour des futurs relais de croissance, que sais-je,
Eh bien, l'avenir déjà, si on arrive à faire Stratoflight jusqu'au bout, ce sera déjà assez accompli. Déjà. J'ai pas pensé à plus tard.
Hein. Et donc vous, l'expérience, c'est ce que disait Arnaud. Donc on aurait un repas, on pourrait se rafraîchir, etc. Il y aurait comme un bar, c'est ça ?
Voilà, l'idée c'est vraiment aussi, on est dans un domaine où beaucoup de personnes viennent chercher quelque chose d'exceptionnel. Et donc ils vont avoir à disposition à bord, on va finalement le personnaliser l'expérience. C'est-à-dire qu'on va voir avec eux aussi ce qu'ils souhaitent, les accompagner dans cette grande émotion. Il y a vraiment ce côté-là, expérience accompagnée.
Oui, c'est intéressant, ça rejoint un petit peu le projet qu'on évoquait tout à l'heure de ce restaurant qui pourrait se retrouver à 30 km au-dessus de la surface de la Terre, qui est un projet incroyable. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est issu d'une boîte qui est en Floride, je crois. Donc on se rapproche un petit peu de ce que vous imaginez.
C'est vrai qu'il y a quelques temps, il y avait des gros titres qui disaient ben voilà, un dîner à 25 km en parlant de notre expérience, parce que comme on était le candidat français, forcément, c'était un dîner. Alors, notre défi, ça va être, puisqu'on là, on vole très bientôt, on vole vraiment, la capsule est prête, tout est prêt pour faire un premier vol avec le prototype, et bien, on va essayer de vous offrir des belles images d'un beau dîner.
Écoutez, vous viendrez nous en parler tous les deux. Merci beaucoup, Vincent Farid Astiez, donc PDG fondateur cofondateur de Zefalto, et Arnaud Longobardi, pilote de ligne, donc, et fondateur de Stratoflight. On se tient au courant.
Merci beaucoup.
Bien évidemment.